Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Comment se fabrique, au tout début, un animateur vedette de TF1? Un gars qui, depuis 24 ans, sans discontinuer, est dans votre poste à midi. Et qui est le héros d'une série qui va signer sa 7e saison. Aujourd'hui, je vous raconte l'enfance, la jeunesse et les débuts de Jean-Luc Reichmann. Une histoire que je tire de son livre « T'as une tâche, pistache » qui vient de sortir en poche chez Michel Lafon. Bettina Servant m'a aidé à l'écrire, Céline Lebras l'a réalisé.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Ma tâche, cette tâche, me suit depuis que je suis né. Hé, t'as une tâche, pistache? Hé, qu'est-ce que t'as bu? Nez rouge. Et viens là, l'alcoolique. Et la tâche, là. Ta mère, elle a toujours envie de fraises? Médicalement parlant, c'est un angiome. Des vaisseaux sanguins ou lymphatiques anormalement dilatés. Une tâche de naissance qui, selon le cas, peut se révéler plus ou moins ancrée. La plupart du temps, à fleur de peau, elle disparaît sans laisser de traces. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Elle était trop profonde. Alors, faut faire avec. J'ai 5 ans. Et tous les mois, je monte avec ma mère dans la Dauphine. Elle n'a pas le permis, c'est mon père qui conduit. Direction l'hôpital. Ces couloirs interminables et lugubres. Je m'allonge, terrorisé sur la table, dans la salle de chirurgie dermatologique. Traitement à la neige carbonique. Et moi, je fixe les demi-globes métalliques suspendus au-dessus de ma tête et je les compte. Un par un. Parce que le traitement, c'est un supplice. L'impression qu'on me laboure le visage avec une aiguille. Ça laisse des marques sur ma peau, comme des entailles. Le médecin tente des subterfuges. Tu sais compter? Jusqu'à 100? Je suis pas dupe, hein? Mais je m'exécute. À chaque coup de laser sur ma peau, je fais grimper le score. 21, 22, 23, 24, 25. Et j'arrive à 100. Et c'est pas fini. Allez, compte encore. Jusqu'à 50. Alors je m'accroche à mon doudou. Je ferme les yeux. J'ai envie de fuir. Et après, le temps de la cicatrisation. Je redeviens l'objet de moquerie. Mon pansement fait le plus grand bonheur de mes copains d'école. Et la douleur laisse place à la tristesse et à la solitude. Mon unique consolation, ce sont les schtroumpfs qu'on m'offre comme récompense. J'en ai 200. Et je les ai encore, hein, à la campagne. Mes enfants schtroumpfent avec aujourd'hui. Et à 6 ans, je dis stop. Un moment, j'en ai plein les schtroumpfs de ce schtroumpf de laser. C'est le dernier schtroumpf que je vais à l'hôpital. J'en ai ma schtroumpf. Parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Et moi, je n'en peux plus. Et nous décidons ensemble de ne plus y retourner. Il faudra définitivement faire avec. C'est une période difficile. Tout devient prétexte à piquer des colères, à devenir possessif, voire exclusif avec ma mère. Sentir tout le temps le regard des autres sur moi. Le moindre commentaire, je crois que c'est pour moi.
Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies?
Pourquoi moi? Pourquoi ces plaisanteries qui tombent comme une condamnation? La première fois, c'est à la campagne, chez mon grand-père, en Bourgogne. Devant le voisin, je suis fier sur mon petit vélo bleu.
Hé, t'es tombé de vélo? T'as le nez râpé.
Je prends ça comme une gifle d'une violence inouïe. J'étais un enfant comme les autres sur mon beau vélo bleu. Et là, tout se brise. Je suis un nez râpé. Mes copains n'ont jamais le temps de s'habituer à ma différence. Mon père est muté tous les ans dans une nouvelle ville. Et donc tous les ans, je dois en conquérir de nouveau, tenter de m'intégrer dans ce terrain miné qu'est la cour de récré, apprivoiser les regards, essayer de me montrer fort. En sixième, le prof de maths, Monsieur Poirot, me rebaptise.
Reichmann le Rouge, allez au tableau.
Il ne sera pas le seul à m'affubler de surnoms divers. Au lycée Saint-Joseph, chez les Jésuites à Toulouse, mon prof de français de la quatrième à la seconde, Monsieur Bouchard, m'appelle la tâche. La tâche au tableau. Quand on est ado, c'est insupportable. Même si grâce à Monsieur Bouchard, j'ai appris à aimer le français. Les gens me disent
« Oh, qu'il est mignon !»
Version originale sous-titrée. « Le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ça se soigne ? Vous vous êtes renseigné ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils vont pas rester comme ça toute sa vie quand même. Et moi, de leur faire pitié, je me sens blessé, voire handicapé. Et je vous parle pas des filles quand je jouais les Don Juan du haut de mes 14 ans.
Oh, tu peux pas sortir avec un garçon comme ça.
Sans compter que pour certains, je suis en plus Reichmann, le Schleu, le Bosch, l'Allemand.
Eh ben, ils t'ont pas raté dans les camps, avec ta tâche.
Moi, dont le père au nom juif a vécu caché pendant la guerre, caché par un curé, dans la montagne. Le soir, quand je suis adolescent, je me mets face au miroir dans la salle de bain et sans faire de bruit, j'ouvre le tiroir de gauche, celui de ma mère, et je lui prends un peu de fond de teint. Et j'essaye de camoufler ma différence. Et quand je vais en soirée, je mets le fond de teint dans ma poche. Et quand j'arrive, je m'en remets une couche comme ça dans le rétroviseur de ma mobylette. On n'en a jamais parlé de ça avec ma mère. En famille, on n'en parle jamais de ma tâche. Cela dit, devant ma glace, quand je me vois avec ma tâche masquée par le fond de teint, eh ben je me sens moins bien. Je ne me reconnais pas. Je ne m'aime pas. Mais celle qui m'a vraiment aidé à grandir sans qu'elle le veuille, c'est ma petite sœur, Marie-Laure. Petite, quand le téléphone sonnait, elle ne bougeait pas. Elle ne tournait pas la tête. On l'a su quand elle avait 3 ans. Marie-Laure est sourde. Déficience auditive à 85%. Elle ne parle pas, elle crie. C'est une super brailleuse. Et moi, mon problème se déplace. Je ne suis plus celui qu'on montre du doigt. Je deviens le grand frère responsable, investi d'une mission protectrice. Ma tâche ne m'empêche pas de voir. Elle ne m'empêche pas d'entendre. Il y a pire. Il y a bien pire. Je tiendrai tête à l'adversité. Je suis têtu de naissance. Mon père m'appelait idée fixe. Je suis une sale bête. Je suis un scorpion. Je ne renonce pas. J'ai une autre échappatoire à ma tâche. Une bouée de sauvetage que je pourrais enfiler quand je veux. Le rire. Faire rire. Faire rire les autres, rire avec eux. Mais ne jamais rire d'eux, hein. Se moquer, c'est si facile, j'en sais quelque chose. Faire rire en restant gentil. Un truc de funambule. Et je sens que c'est par cette voie que je trouverai mon équilibre. Alors, adolescent, j'imite le proviseur en pastichant Daniel Guichard.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux.
Et puis j'imite Giscard, Georges Marché, Chaban Delmas. En vérité, j'imite Thierry Leluron. Mais les gens rient, et les filles me sourient. Et le fait d'improviser comme ça ces imitations, ça me procure une dose d'adrénaline. Un truc que je n'imaginais même pas. 14 ans, je réclame une mobylette à mon père.
Ah, ben tu te la paies. Ah ben avec l'assurance, l'essence. Et si on te la vole, ben écoute... Bon, d'accord. Tu penses que je peux trouver un travail d'été à Mammouth?
Il y travaille. C'est le directeur. Il me trouve un job au rayon charcuterie. Levé 3 heures du mat, au boulot à 4 heures. Je fais du pâté de porc, je coupe des têtes de cochon en deux, j'enlève la cervelle, les yeux, je grille les derniers poils. Et surtout, je fais rire mes collègues avec mes imitations de Coluche. Du coup, mon chef me dit
« Ton bagou, là, utilise-le. Utilise-le à bon escient. »
Et il me colle sur le parking du Mammouth pendant les 5 jours anniversaires.
« Et venez voir, il y a le fils du directeur qui sème la zizanie sur le parking. »
Et au final, à 14 ans, en 5 jours, je vends 4 tonnes de saucisses de Toulouse. À 11,90 francs le kilo, ma mobylette, je me la suis payée. Mais le rire ne suffit pas à faire oublier mes soucis d'ado entachés. Alors je demande à mes parents de m'inscrire avec mon frère au karaté. Mon frère, qui est stylé baba cool et qui est fou de musique, trouve que c'est trop violent. Il arrête assez vite. Alors que moi, je veux devenir Jean-Bruce Luc Lee. Bruce Lee me fascine. Je suis subjugué par cet Elastic Man qui bondit en hurlant des... Ah! Mon prof s'appelle Lilian. Il est ceinture noire. Devenu champion de France de karaté contact. J'ai 14 ans. J'adore ce gars de 20 ans plein de vie et d'envie. Il s'en fiche de mon angium. Il ne me parle que de ma souplesse, d'adaptabilité face à l'adversaire, de rapidité de déplacement, de tout ce qu'on va travailler. Il me parle d'avenir. Je veux me forger un mental, me connaître, me comparer, être bien dans ma tête et si possible dans mon slip. Mon bac en poche, je dois démontrer à mon père que je prends la bonne direction. Et donc, pour lui faire plaisir, j'essaye Subduco, une grande école de commerce. Mais au moment de passer les oraux, comme le costard, la chemise et le bureau, je ne le sens pas. Et qu'on me propose d'aller travailler en Tunisie comme moniteur de voile, guide accompagnateur et super DJ, eh ben j'y vais. Pour mon père, c'est pas facile, hein. Mais c'est mon histoire à moi. D'autant plus que juste après, j'enchaîne avec un boulot de guide accompagnateur en Andalousie. Et puis je rentre à Toulouse, où en principe m'attend Chantal, ma petite amie depuis 4 ans. Mais elle m'a pas attendu. Elle vient d'épouser un parachutiste. Quel con ! D'autant que maintenant, après 2 saisons d'absence... Je dois trouver un boulot. Je repars à zéro, sans aucun réseau. On est en 1981. Et pour commencer, je m'inscris au chômage. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, mon pote Pampan, qui est plombier, me donne un tuyau.
Eh bien, figure-toi que je suis allé réparer une fuite dans la cave d'une maison à Malieu. Eh bien, dans la cour... Dans une caravane, figure-toi qu'ils ont installé une radio. Et donc, je leur ai dit, moi, j'ai un copain qui va vous raconter des histoires dans le poste. Mais oui, t'arrêtes pas de raconter des conneries, va plutôt le raconter à la radio. Et t'as pas le choix, hein. T'as plus d'argent.
Radio des Coteaux. Je commence par y raconter des histoires drôles le dimanche matin, bénévolement. Et puis, au bout de quelques mois, la directrice d'une radio concurrente, Radio Cambos, me contacte.
Bon, je t'écoute tous les dimanches, tu me plais bien, oui. Tu as le contact avec les auditeurs. Alors écoute, on va bientôt recevoir le chanteur de Rocamadour ici, là, Gérard Blanchard. Tu vas l'interviewer, et si t'es bon, eh bien, je t'engage et je te paye.
Le bémol, c'est que je n'ai jamais interviewé qui que ce soit. Et donc le jour J, je me retrouve en direct face à Gérard Blanchard.
Merci à tous, c'était Gérard Blanchard sur Radio Cambos 93.6 MHz. N'oubliez pas d'aller acheter son disque dans toutes les bonnes boulangeries.
À bientôt, Gérard, peut-être.
Pourquoi peut-être ?
La directrice me convoque dans la foulée.
Bon, le problème, c'est qu'on savait plus qui interviewait l'autre. En plus, vous aviez le même timbre de voix, c'était compliqué pour l'auditeur de faire le tri. Hein. Il faudra que tu fasses attention à l'avenir, ok ? Tu as le poste. Tu commences lundi à 8h30.
Je repars au volant de ma Diane 6. Je mets Radio Cambos à fond. Et je hurle. Mon amour est parti avec le loup dans les gorges de Rocamaro. Ma voix va maintenant sortir du poste tous les jours. Pour arrondir les fins de mois, je fais aussi des voix publicitaires et des animations commerciales dans les supermarchés.
Attention, vente flash, moins 10% sur les radis pendant 5 minutes. Et pour deux bottes achetées, on vous offre la troisième.
Et puis un jour, je suis derrière ma console à Radio Cambos.
Salut! Est-ce que je pourrais parler à l'animateur?
Oui, c'est moi.
Je suis Dodo du Forest, d'Énergie à Paris.
C'est ça, ouais. Et moi, je suis l'un des Beatles.
Et je raccroche. Et il rappelle.
Ne raccroche pas, hein. Je suis le vrai Dodo du Forest. Dis-moi, je suis de passage à Toulouse. Tu connais un café où on pourrait boire un coup ensemble ?
Énergie Toulouse vient de se créer. Et il me propose d'assurer le 6-9, 6h-9h. On ne parle pas d'argent ni de contrat, mais je suis raide dingue de bonheur. Et voilà comment le micro va devenir une vraie drogue. Le 10 juillet 1984, j'ai 23 ans. Je suis au guidon de ma moto 600 XT, jean bleu délavé, chemise à fleurs déboutonnée à la Magnum, les cheveux au vent, j'ai juste un petit casque blanc, pas un intégral, j'ai jamais supporté de me sentir prisonnier d'un gros casque. Dans 5 minutes, je serai chez mon copain Eric, le roi de la mécanique. Avec mon copain Pampan, on s'apprête à partir en vacances, en moto, en Italie. Je me souviens parfaitement du croisement d'avant. Je roule à 90. En face, dans sa R6, il roule à 90. Choc frontal à 180 km/h. Bam ! J'entends encore le bruit, c'est insupportable. Et sous le choc, le capot de sa voiture se relève, il me découpe au passage le bras gauche en lambeaux. Je fais un vol plané et j'atterris à 39,75 m du point d'impact.
À mon avis, il est mort, hein ?
Non. Non, je suis dans le coma. 18 fractures, 130 points de suture, la rate éclatée, les muscles scalpés. Quand je sors du coma, je me retrouve en soins intensifs, intubé par tous les orifices. 9 mois d'immobilisation. Et la douleur ! Pendant des mois, je ne peux pas dormir, elle ne me lâche pas. Je demande un miroir. Ma tâche a disparu, je suis un hématome géant. Où trouver la force pour résister à la tentation d'abandonner? Peut-être dans les mots de mon grand-père.
Jean-Luc, le docteur t'a dit, t'as une chance sur 5 de t'en sortir. Et moi je te dis, si t'as une chance sur 5, eh ben prends-la.
J'apprends que les auditeurs demandent souvent de mes nouvelles. Je décide de leur parler à l'antenne, en direct, par téléphone.
Est-ce que vous allez revenir, Jean-Luc ? Bah écoutez, je vais essayer de me remettre, hein, au plus vite, et puis dès que je pourrai, ben, je vous rappellerai.
Et j'appelle comme ça, tous les lundis, pour faire des petits points à la radio. Ça me motive. La moto a toujours été et sera toujours ma passion. Et la preuve, c'est que j'ai toujours mon plâtre et mes béquilles. Et je vais m'en recommander une autre.
J'ai repris ma place à la radio. Entre-temps, Énergie Toulouse est devenue Fun Radio. Et puis un jour, en 1986, on me convoque. T'es plus dans le format, Jean-Luc. On est devenu une radio musicale. Toi, tu parles trop. En version sous-titrée, tu prends la porte. Plumé. Alors que je viens d'investir toutes mes économies dans un petit appart à Toulouse. Et puis mon pote Olivier, qui était mon voisin de tranche horaire sur Énergie Toulouse, est monté à Paris. Il a intégré la dernière née des chaînes de télé, la 5.
Dis-moi, on est en train de monter un nouveau jeu, là, qui s'appellera La Porte Magique. Et si tu veux être mon assistant sur la sélection des candidats, eh ben, je t'attends à Paris, lundi prochain.
Je prends direct la Nationale 20. Pas l'autoroute, hein, j'ai pas un franc pour la payer. Et je débarque à Paris, rue Jean Goujon, le fief de la 5. J'ignore tout du travail de casting. Et je ne connais personne. Stéphane Collaro est dans le bureau d'à côté, Patrick Sabatier, Patrick Sébastien. Je parviens à me faire un seul ami, le chien, le bobtail de Sabatier. Et donc, mes journées sont rythmées par les appels des candidats. Et moi, j'aime leur parler. Je leur raconte des histoires, je les fais rire. Et du coup, on me demande d'accompagner les candidats sur le plateau. Et je deviens chauffeur de salle. À côté de ça, je frappe à toutes les portes. Et ma mère est inquiète.
Ça va, Jean-Luc, tu es sûr?
Ça va, maman, ça va. Un jour, je finirai par décrocher quelque chose, hein. Un jour, ce sera peut-être le triomphe. J'ai dit ça parce que j'avais l'Arc de Triomphe devant moi, sous les yeux. Vous connaissez la fin de l'histoire. Je ne vais pas vous raconter tous les épisodes, les castings, les échecs, les réussites qui ne durent pas. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, une carrière à la radio, à la télé, une carrière de comédien. Il y a des hauts, il y a des bas. Une dernière pour la route, néanmoins. En 1994, Béatrice Esposito, qui est responsable des variétés et du divertissement sur France 2, me fait faire mes premiers essais d'animateur télé. Elle veut voir comment je passe à l'écran. Le test a lieu sur le plateau d'Une Famille en Or. Les cadreurs sont morts de rire. Et je suis finalement retenu comme animateur d'un jeu, Les Amours. À cet instant, je prends conscience qu'une nouvelle vie commence. Je suis heureux. Et le lendemain de la première, je me fais assassiner par le chroniqueur d'Europe 1, Philippe Aubert.
Alors j'ai vu Les Amours sur France 2 hier midi avec un dénommé Jean-Luc Reichmann. Les mimiques, les cheveux longs, les chaussures jaunes, le type arrête pas de gesticuler. À mon avis, Les Amours à la télé avec lui, c'est sûr qu'il n'y en a pas pour longtemps. Hein.
J'écoute ça seul dans ma chambre. Tout s'effondre. C'est comme si j'avais reçu une boule de pétanque sur la tête. À cette époque-là, il est à nouveau question de ma tâche. Les mêmes mots que quand j'étais enfant.
On peut pas le montrer à la télé avec ce truc-là sur le nez.
Et donc au maquillage.
Bon, pour la tâche, si ça t'embête pas, hein. On va la maquiller un peu, hein, ok?
On m'explique très gentiment que c'est pour éviter les brillances. Alors je m'incline. Mais au fond de moi, la corde sensible n'est pas loin. En me cachant ma tâche sous le fond de teint, on cache une partie de moi. Alors juste avant d'entrer sur le plateau, j'humecte mon index avec la salive et j'enlève le maquillage sur ma tâche. Et un an plus tard...
Bon, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est plus possible. Soit vous me prenez avec ma tâche, soit j'arrête.
À partir de là, on me prendra comme je suis, avec ma marque de fabrique. j'ai tiré cette histoire du livre de Jean-Luc Reichmann, « T'as une tâche pistache », en poche, chez Michel Lafond.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.